Jean Fleury, Les souvenirs du doyen des croque-morts. À M. Théophile Gautier. M. Petrus Borel, ce nom vient tout naturellement quand on parle croque-mort, écrivit jadis sur cette matière un article remarquable et d'un goguenard inouï. Un matin, on sonne à sa porte, il va ouvrir. « Je suis Bouc Jargal, » dit l'entrant. Ah, « En quoi puis-je vous être agréable, monsieur ?»« Laissez faire, vous l'avez déjà assez. Nous voulons vous revoir et nous sommes venus. 25 cercueils. Ah, nous vous remercions de tout notre cœur. Oh, sacristi, quand vous mourrez, nous vous porterons comme un prince. » Tout à la douce et sans vous secouer. M. Petrus Borel ouvrait de grands yeux. Il y a eu un petit malheur, c'est que vous ne soyez pas du 12e arrondissement. On vous aurait parlé au Montparnasse. Oh, de là comme chez soi. Pas besoin de tombeau. Moi, je me chargeais de vous entretenir du bon terreau. Un ami jardinier par là. Il faut pas autre chose pour son cadavre que des fleurs, c'est plus gai. Alors seulement, l'homme de lettres commença à comprendre que le personnage qui débutait par un tel discours pouvait bien être un croque-mort. Si l'accoutrement de Bouc Jargal était insolite, sa physionomie ne l'était guère moins. Une petite tête ronde, grêle, grêlée, jovialisée par trois fossettes faisant élection de domicile sur les joues et sur le menton. Le nez rouge et gros comme celui d'un baveur de terrier, des besicles, instrument inaccoutumé aux gens de cette profession, et sur le tout un crâne nu comme un verre. L'habit veste de drap noir, la cravate blanche, le gilet, le pantalon noir, donnaient l'idée d'un huissier de province endimanché. « Monsieur Bouc Jargal, répondit Monsieur Petrus Borel, je suis très charmé de votre aimable visite et vous remercie de non moins aimables propositions. Mais je n'ai encore aucune idée de faire un tour à Montparnasse ou au Père Lachaise. Ben, je l'entends bien de même, reprit Bouc Jargal. Histoire de rire, tout simplement. Ah, faut-y faire monter les autres ? Quels autres ? Bouc Jargal alla à la fenêtre et montra du doigt M. Petrus Borel une cinquantaine de croque-morts qui se promenaient gravement dans la rue, les uns causant, les autres fumant. Tous avaient revêtu leur costume officiel. « Eh bien, quel est votre dessein ? Allez faire monter ici ? Ah non, non, non ! Sacré cercueil, ils sont pas contents ! Voilà ce que c'est ! Je suis leur doyen, tel que vous voyez ! J'aurais lu votre travail entre deux verres de vin, ils m'ont dit. Ça ne veut pas se passer comme ça, allons remercier l'auteur. Et puis nous sommes venus. Enfin donc pourquoi ils ont pris la liberté de m'envoyer en avant? Eh bien, je vous remercie, vous leur direz de ma part, mais il me ferait grand plaisir de ne pas rester là trop longtemps. On pourrait croire qu'il y a un mort dans la maison. Bon, reprit Bouc Jargal. « Je saisis vos systèmes. Les auteurs ont des drôles d'idées, enfin, n'importe. Nous allons vous obéir, au moins faites-nous un petit plaisir, après nous partons. Mais je suis à votre service. Allô, vous êtes un brave auteur, M. Petrus Borel. Puisque vous ne pouvez pas recevoir mes camarades, montrez-nous une minute à la fenêtre, qu'ils puissent vous voir. C'est convenu. Adieu, M. Bouc Jargal. » Un avantage de vous revoir, M. Petrus Borel, surtout si le malheur voulait que vous vous trouviez un de ces quatre matins in extremis, vous pouvez compter sur nous. » Bouc Jargal, descendu, conta à ses amis son entrevue avec l'auteur et leur dit « Attention, la fenêtre s'ouvre !» L'homme de lettres parut à son balcon. « Vive M. Petrus Borel !» crièrent les 50 croque-morts. Ce hurra étonna beaucoup les boutiques du quartier, qui sortirent de leur maison, fort surpris d'entendre des croque-morts faire les souhaits de vie en l'honneur de quelqu'un, ce qui va contre leur métier. L'anecdote fut racontée au divan et tous les membres de ce cénacle pourraient au besoin l'affirmer. Ce fait nous a servi à poser Bugjargal, doyen des croque-morts. Il y a 32 ans que Bugjargal est employé dans l'administration des pompes funèbres. Et pendant ces 32 ans, il n'a mérité que des compliments de ses chefs. Depuis 2 ans, il aurait pu se retirer du service. Il a droit à une pension. Mais Bugjargal a l'amour de l'art. Un croque-mort, l'amour de l'art, vous voulez rire? Oh, je me garderai bien de rire en pareille occurrence. Cela semble en effet bizarre pour ceux qui n'ont pas pu remarquer que les individus s'attachent à leur profession en raison de leur bassesse. Parents du Châtelet citent les récureurs d'égouts comme gens bridés à leur état, par goût. La seule faveur que demanda Bugjargal aux pompes fut d'être employé à l'avenir au transport des petits. Ce n'est pas le zèle qui faisait faute, mais la force. Un matin, il avait laissé glisser d'un second étage une bière contenant un très gros grenadier de la garde nationale, mort d'apoplexie. Ce lui fut un avertissement du ciel. « Mes bras s'en vont, » dit-il. L'administration lui accorda sa demande. Et depuis, Bugjargal fut chargé du service des petits. Le petit, en style des pompes, correspond à enfant en français. Voilà que Bugjargal, heureux, pouvant travailler à sa fantaisie et vivre libre comme l'air, car le petit s'en va plus qu'on ne le croit, isolé au cimetière. Quand le petit est mort, les parents disent souvent « Ah, fier débarras !» Donc Bugjargal s'en allait plus d'une fois au Montparnasse, sous-entendu cimetière, portant la biérette sous le bras. Nous n'avons pas encore dit que le doyen des croque-morts était en même temps l'homme le plus poétique, le plus buveur, le plus philosophe et le plus lacrymal des pompes. Quand il était seul par les chemins, servant tout à la fois de corbillard, de convoi, de parents et d'amis, pour se distraire, Bugjargal composait des manières d'oraison funèbres rythmées qu'il adressait à son mort. Il avait adopté à ce discours de petits airs de fantaisie qui en relevaient la monotonie. Voici une de ces ballades naïves que nous tenons de l'amitié de l'auteur. Eh bien, le petit, te voilà donc dans un bon lit de planche. Tu es heureux, le petit. À ton âge, on est mieux couché dans le sapin que vieux dans un lit de plume. Comme tu vas faire un bon somme, le petit, le sommeil de l'éternité. C'est que vois-tu, le petit, la vie est une mort quotidienne, tandis que la mort est une vie perpétuelle. Là-bas, le petit, où que tu vas être enterré, ton corps va faire pousser de la belle herbe vers tes marguerites. Tu quittes, le petit, une vallée de larmes pour une vallée de joie. Le bon Dieu va faire de toi un ange, le petit, parce que tu n'as pas encore péché. Et quand tu seras un ange, le petit, souviens-toi de moi, le vieux Bugjargal, qui seul t'accompagne. Adieu, le petit, et prie pour moi. Bugjargal n'a jamais eu aucun penchant voltairien. Et il croit sérieusement que les petits s'occupent de lui. « J'ai déjà là-haut, disait-il, 253 anges qui me connaissent, car il les compte et les inscrit sur un livre. » Et quand il a remis la bérette au fossoyeur, Bugjargal s'en vient tranquillement faire un tour chez la mère aux chiens. On nomme ainsi la propriétaire d'un cabaret de la barrière d'enfer. Là se donnent rendez-vous les employés des pompes qui viennent vider nombre de fioles en mémoire des morts. Ce cabaret, qui a pour enseigne à la girafe, n'est pas des plus remarquables à l'extérieur. Il est même vilain avec le badigeon rouge criard dont on a jugé à propos de l'orner. Mais il existe une grande salle exposée à tous les vents avec un toit de bois, des tables et des bancs de bois solidement figés en terre. Le jour n'y pénètre qu'à demi et donne à cette longue salle un aspect tout particulier, qu'on ne retrouve guère que dans les braveries de Hollande. La cabaretière, une grosse personne, incessamment suivie d'une légion de jeunes chiens, d'où lui vient son surnom, est depuis longues années en fort bonne intelligence avec Bugjargal. La calomnie, qui s'assied même au cabaret, a prétendu qu'elle était sa maîtresse. Bon, nous n'en croyons rien, pas plus qu'à la nouvelle de son mariage, facétie inventée par un croque-mort plaisant. L'origine de ces bruits vient de ce que Bugjargal prend ses repas à la girafe. Aussi bien le vénérable doyen, le mariage en horreur, il répète souvent, « Le mariage est un corbillard rempli de chaos. » Il y a des mariages de première classe qui sont au corbillard de première classe, ce que les mariages de dernière classe sont au corbillard de dernière classe. La conversation de cet homme étonnant est semée de mots en harmonie avec sa condition. Il a composé même une chanson lariflatique sur la mort, qui est, dans le sentiment jovial et mélancolique, des fresques que peignait à Bâle-Holbein et que la gravure a conservé sous le titre de la danse des morts. Nous en donnons trois couplets pour qu'on juge du ton philosophique qui est empreint dans cette chanson. La poésie n'en est pas des plus fines, mais à quoi bon des règles qui gêneraient les pensées de l'auteur? L'air de la rifla. La mort pour tous est bonne, ô la belle besogne. Quant aux petits et vieux, elle éteint les deux yeux. La rifla, fla, fla, la rifla, fla, fla. Brouh, la froide fille, disait un joyeux de rille, sentant à son grabat claquer de maigres bras. La rifla, fla, fla, la rifla, fla, fla. La folle personnière enfourne dans la bière les soucis du passé avec le trépassé. La rifla, fla, fla, la rifla, fla, fla. La rifla, fla, fla, la rifla, fla, fla. Le public n'a pas grande sympathie pour les employés des pompes. Cela vient de ce que les croque-morts, en général, n'ont pas de dehors. D'ordinaire, ils sont vêtus de noir, qui est fort bien la couleur la plus distinguée, mais on ne sait pourquoi leurs habits de drap deviennent tout d'un coup du lasting, et de noir passe à un ton verdâtre et malheureux qui chagrine la rue. Leurs crêpes sont tout de suite loques, et plus d'un chiffonnier en ferait fi. Voilà ce qui indispose le public. Au contraire, Bugjargal a le sentiment du costume. Son habit ne se déforme pas. Son drap reste du drap, et le noir demeure du noir. De cette tenue magistrale lui arrivent en foule les sympathies. Il a de tout temps exercé une certaine suprématie sur ses camarades. Ils admirent non seulement le doyen, mais encore l'homme. Du temps qu'il exerçait pleinement son métier, il reçoit l'ordre d'aller encercueiller un homme de haut parage. Les parents avaient recommandé au concierge de les avertir quand les croque-morts se présenteraient. Rien ne ranime la douleur comme un affreux croque-mort. Bugjargal monte et sonne. Il s'adresse justement à l'épouse du défunt qui le prit pour le notaire. On ne peut pas faire de plus grand éloge à un employé des pompes. Ce n'est pas tout. La bonne, le voyant tout frisé et guilleré, Bugjargal était jeune alors, ne sut se contenir son admiration et s'écria « Seigneur, qu'il est donc gentil et propre, on dirait qu'il sort d'une boîte !» Cette expression que quelques lecteurs pourraient prendre pour une allusion et qui est très usitée dans la province prouve simplement la bonne tenue et les soins exquis que Bugjargal a pour sa personne. D'où vient-il? D'où sort-il? Demanderont les personnes qui veulent savoir l'alpha et l'oméga d'un personnage. D'autres vont dire « On s'appelle pas Bugjargal » et mille autres réclamations fort désagréables à tout biographe. Il n'avait pas de nom quand il sortit des enfants trouvés. On l'appelait Pierre, singulière prédestination quand on songe à l'état qu'il devait embrasser dans la suite. Chose plus étrange encore, il entra en apprentissage chez un menuisier. Et de menuiserie en menuiserie, il arriva chez l'entrepreneur des cercueils. De confectionneur à porteur de cercueils, il n'y a qu'un pas. Ce pas, il le franchit. Alors paraissait un des premiers romans de M. Victor Hugo. L'ex-menuisier le lut, le relut et le lut encore. Il en parla et reparla à qui voulait l'entendre. Il le récitait à ses amis. Ce fut une rage. La Fontaine parlant à tout le monde du prophète à Baruch était moins ennuyeux. Bref, on surnomma Pierre Bugjargal en raison de sa profonde admiration pour le livre. Et comme il n'avait pas de nom, il garda celui-là. N'en valait-il pas un autre ? Les entasseurs de tomes qui se piquent d'écrire des choses en 10 volumes peuvent aller trouver Bugjargal. Il le recevra comme un marquis ne reçoit pas et leur racontera des histoires étranges qui laissent de bon loin en arrière Madame Radcliffe et M. Sue, qui surpassent à l'invention les mystères d'Udolf et les mystères de Paris. Bugjargal, par sa position, ne sait-il pas tout ? N'a-t-il pas remarqué dans les familles, au jour de l'enterrement, les douleurs et les larmes qui ressemblent tant à des pâtés et d'opéras comiques, des douleurs et des larmes de carton ? Nous, qui n'avons voulu tirer qu'un simple crayon de cette figure originale, nous nous borderons à narrer un seul fait observé par Bugjargal. Un homme pas riche, dit-il, venait d'être enterré au Montparnasse. Je dis pas riche à cause de son convoi qui était maigrelet. 8 jours se passent. Et voilà un matin une femme, longue et maigre, pâle comme la lune, qui demande la place où était son mari. Le concierge l'y mène. Elle tombe à genoux sur la terre et fond en sanglots. Nous sommes habitués à cela, pas vrai ? Eh bien, ça nous faisait de la peine. Ces sanglots-là n'en étaient pas naturels. Ils n'en sortaient pas de larmes. Après, elle tire de dessous son châle une bouteille. Oh, mon Dieu, faites comme toutes les bouteilles. Et puis elle ôte le bouchon et verse de l'eau sur la terre. Ensuite, elle s'en va. Une semaine après, elle revient. Toujours les mêmes sanglots et toujours la même bouteille. « Madame, que lui dit le concierge, faut pas vous gêner à apporter de l'eau. Nous en avons ici à votre service. » Elle le regarde avec ses grands yeux fixes et ne répond pas. Ce commerce dura je ne sais combien. Et pour l'heure, nous apprenons que la pauvre affligée passait son temps à pleurer. Et ce qu'elle apportait dans sa bouteille, c'était des larmes, oui, monsieur. Ces larmes de la semaine. Ce simple narré, qui laisse bien loin la douleur mythologique d'Artémis en l'honneur du roi Mausol, est un des 1000 faits dont est chargée la mémoire du croque-mort. Tout dernièrement, il a eu une idée originale. Il fit placer sur la tombe d'un ouvrier qui s'était acquis une réputation par ses chansons dans les goguettes, une bouteille cassée. Bugjargal a peut-être un défaut. Il n'aime pas la nature. Il lui préfère le vin, où il ne voit la nature qu'à travers un prisme sépulcral. Je regardais une plantation de jeunes arbres que faisait sur le boulevard d'enfer des ouvriers. « Ces arbres-là, dit-il, c'est des cercueils qui poussent. » 29 décembre 1845.